Nous sommes réunis aujourd'hui donc à l'invitation du TNT pour évoquer et discuter des bases de l'œuvre de Rodrigo. Ceux qui ont eu la chance d'assister cette semaine à ces spectacles, que ce soit Ravinelia Humana ou J'ai acheté une pelle chez Ikea pour creuser ma tombe, savent à quel point ces pièces sont bourrées à craquer, remplies à la fois d'aphorismes, d'événements visuels, de significations ambiguës et d'images à la fois repoussantes et séduisantes. Des images qui font toujours preuve d'une certaine efficacité et qui finissent immanquablement par nous désigner dans nos comportements et dans nos actes. Assister en fait à une pièce ou une performance de Rodrigo Garcia, c'est de mon point de vue toujours s'exposer à prendre des coups, symbolique qu'il s'entend, encore que quand on est assis au premier rang, ça peut devenir plus sportif. Une dinde de Noël qui explose en direct, des jeunes gens qui crachent sans fin sur le sol, les baskets dernier cri qui deviennent des instruments d'excitation sexuelle, une femme qui urine sur une table au milieu de la scène, ou encore un pédophile qui souhaite partager le temps de la présentation son problème avec nous. On pourrait comme ça multiplier en fait les exemples de trouvailles, d'idées ou d'associations présentes dans les œuvres de Rodrigo auxquelles en fait il est difficile de rester indifférent et, ou étranger. Dans un monde contemporain pourtant qui vise à ouvrir l'expérience et à faire de nous des spectateurs indifférents à l'extrême. D'où vient donc cette capacité à provoquer, à choquer toujours et encore, qu'il faudrait peut-être mieux dire, cette capacité à agir ou à interagir, à stimuler les mécanismes du corps et de la pensée d'autrui. Donc né à Buenos Aires en 1964, Rodrigo Garcia, qui vit depuis près de 20 ans à Madrid, où il a sa base, la Carnicería Teatro, est un des artistes européens dont les différentes interventions et manifestations sont souvent accompagnées de polémiques. Il y a donc indéniablement chez lui une habileté à mettre le doigt sur la plaie, un potentiel éminemment critique dans ses textes, dans ses images et les dispositifs scéniques qu'il conçoit. Cette année, l'équipe de Mira souhaitait à juste titre apporter différents éclairages sur cette matière terriblement vivante et virulente qu'est l'œuvre théâtrale de Rodrigo Garcia. Une manière peut-être de sortir de cette lecture un peu sulfureuse du travail de l'artiste qui a tendance à occulter sa véritable portée. Coller des étiquettes, donc en l'occurrence provocateur, pornographe, ou obscène, voire totalitaire, mais parfois, a toujours été et reste une façon pratique de domestiquer et de repousser les gêneurs. Trois personnes, donc issues de diverses disciplines, ont s'efforcé de préciser brièvement ici leur rapport, mais aussi leur vision de l'œuvre de Rodrigo. La façon aussi dont elle s'inscrit dans un contexte, dans l'histoire récente de la performance du théâtre. Nous allons commencer avec Philippe Macassar, qui est directeur du Théâtre Saint-Gervais à Genève, qui va revenir en fait sur son expérience de travail avec Rodrigo et qui abordera un petit peu son univers philosophique et conceptuel. Ensuite, Christina Bassero, donc, qui est à ma droite et à la gauche de Philippe, qui est donc la traductrice de la plupart des textes de Rodrigo en français, abordera la spécificité de sa langue et son rapport à l'actualité. Enfin, Léa Gauthier, donc, qui est à ma droite, qui est rédactrice en chef de la revue Mouvement, abordera l'œuvre de Rodrigo sous l'aspect, en fait, sous l'angle des arts visuels et de la performance. Donc, en fait, il s'agit de petites interventions qui durent un quart d'heure, 20 minutes, entre lesquelles on essaiera de lancer la discussion. Donc, vous êtes invités, évidemment, à participer. Il y a un micro qui va circuler. Et puis, Rodrigo est là également et il est libre d'intervenir quand il le veut. Je passe la parole à Philippe.
Alors, en réfléchissant un peu à cette réunion, j'avais noté comme ça deux trois titres possibles, non pas de titres officiels, je vois pas sympathique, mais moi qui viens de Genève, il y a un peu trop français pour moi. Phénomène majeur, artiste à la mode, là, je crois que c'est vrai, excusez-moi. Ça me semble un peu. Ça, on a une qualité. Donc, et notamment. Voilà. Non. D'abord, une chose. Il faudrait rapidement qu'un éditeur, et sans doute que Béreur le fera un jour, édite, si en tout cas c'est d'accord, puisqu'il n'a pas attention, tout ce qu'il a écrit. C'est essentiellement des entretiens. Garcia
un peu de texte théorique, au sens strict, sur ce qu'il écrit, en tout cas, c'est un communiqué, ici, là, ça va ça dans ses tiroirs, mais je ne crois pas. En revanche, il répond volontiers à toutes les questions. Donc, il existe un dispositif, enfin, qui pourrait devenir un dispositif, il existe un manuel extrêmement riche, contrasté, circonstancié, de comment Garcia pense, développe, réagit au théâtre qu'il fait et aux réactions justement que ce théâtre entretient. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on va dire aujourd'hui est caduque, mais enfin, c'est peut-être pas le cas. Garcia, quelque part, dit « Je glisse dans mes pièces des choses qui peuvent déranger, qui ne devraient pas se dire. J'aime dans un discours qu'on entend, j'aime que dans un discours on entende des choses positives, mais aussi des choses qui puissent être interprétées comme mal pensées, parce qu'elles jettent le trouble. C'est ça qui m'intéresse, même si certains vont me taxer de fasciste, alors que je ne le suis pas. J'aime cette confusion génératrice d'attention, capable de susciter des réactions. Il me semble que nous sommes tous trop d'accord, tout le temps, sur tout. » Ça, c'est un titre possible de notre soirée. Il y en a un qui est pas mal aussi, que chacun prenne garde à sa peau. C'est pas de Garcia, c'est de Bertolt Brecht. C'est dans le journal et notes autobiographiques de Brecht au début des années 20. Donc avant que Brecht véritablement découvre et appréhende le marxisme, et ceux qui connaissent Brecht savent qu'au cœur de sa problématique dans les premières pièces, il y a la figure de la sociale. À un moment où justement le marxisme et son exécution, au sens du terme, politique, n'a pas eu encore lieu. Bien Garcia, à mon avis, il est juste au bout de cette histoire-là. Et le que chacun prenne garde à sa peau, c'est, au-delà de la forme apparemment individuelle, voire individualiste, c'est, je crois, un des grands enseignements du théâtre de Garcia, c'est qu'il nous met individuellement, donc politiquement, après le XXe siècle, et justement la manière, par ailleurs, contrastée, pour moi, de moins pas que négative, de l'histoire du communisme et concrètement de la mise en acte du marxisme. Donc, ce qui me semble important de voir chez Garcia, c'est qu'au fond, ce qui dérange, ce qui me dérange, c'est qu'il regarde le monde et me donne à le regarder d'abord sur le mode, pour citer cette belle interpellation de Gatti, qui s'adresse à qui. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, qui s'adresse à qui, politiquement, n'en parlons pas, théâtralement, c'est assez compliqué aussi. Mais ce qui me semble capital pour celles et ceux qui connaissent ces textes, qui vont les découvrir de Garcia, c'est de voir la façon dont il utilise le je, le tu, les gens, un on. Et qu'au fond, toute son écriture est fondée sur qu'en est-il de notre relation entre nous, de notre relation au monde, et en quoi le théâtre peut encore, et je le dis exprès le théâtre, parce que je pense que c'est vraiment du théâtre à l'état pur, que Garcia fait, même s'il emprunte à toutes les formes de la présentation, médias, images, compris. Donc, qu'en est-il de l'état du monde dans le théâtre? C'est pour ça que le rapport à Brecht, pour moi, il est transparent. Que chacun prenne garde à sa peau. Dans une pièce de Nando Garcia, Ikea, c'est ce qu'on va voir ce soir, il y a un moment où il y a des textes qui sont projetés. On pourra revenir d'ailleurs à un moment donné, voir à quelle époque, quand on travaille les textes, ça c'est la dernière point, les textes de Garcia sont plus seulement dits ou en voix off, ou au micro, mais projetés. Et c'est te souviens, tu te souviens du performance art, tu te souviens de Fluxus Crabbing, tu te souviens de la torture en Argentine, tu te souviens de raclée de tes parents, tu te souviens du jour où tu as voulu mourir. Vous voyez décliner, je veux dire, de performance art. Jour où tu as voulu mourir, en passant par l'Argentine, pardonnez-moi l'expression, on a un condensé foudroyant. Et à la fin de ce moment-là, il dit, oui, mais qui c'est ce tu? Moi, je suis fasciné par ces tu qui arrivent sur les écrans, par exemple, parce que j'ai vu des spectacles de Garcia, je me suis privilégié souvent, mais même la première fois, on se dit, mais c'est qui ce tu? C'est moi, c'est lui, le jeu qui parle, c'est Guy. Tu te souviens du théâtre, ça sert à quoi? Et ça sert à quoi en général? Tout ça, à toucher de l'argent. Il y a ce moment, il mourit dans le théâtre, je ne vais pas raconter parce que je ne veux pas tuer le spectacle de ce soir, même si je ne travaille pas sur le suspect, c'est comme brèche, mais il y a un moment assez fort. Alors, il dit plus loin, le monde et l'actualité influencent davantage le travail que les pièces. Je trouve que le théâtre est un lieu de communication, de provocation et de dialogue où on peut faire des choses très contradictoires. Et certains pourraient trouver abusif mon allusion à Brecht, mais dans un texte, quelque part, il dit au fond, Brecht a dû inventer, il dit pas ce que c'est, mais on peut penser que c'est la théorie de la distanciation, de la mise à distance, de l'étrangérisation, comme disaient les Russes, a inventé ça contre le personnage, pour ne plus faire un théâtre au personnage. Dans le même temps, il dit qu'il ne tient pas le temps, lui en tant que spectateur, donc on peut l'imaginer encore pire en tant que metteur en scène, dans l'intention uniquement d'un individu qui serait roi de l'orienté ou cette immense actrice qui s'appelle, ça y est, j'ai un trou, Patricia Lermas. Donc, il est entre le personnage, auquel il n'a pas forcément renoncé, il est entre le sujet, parce que la question du théâtre de Garcia, c'est le sujet. Qu'est-ce qui reste encore du sujet au théâtre? Sans procéder par un éclatement, sans procéder par une destruction, il considère, il le dit quelque part aussi, qu'après le théâtre de l'absurde, c'est dû, de son point de vue, la référence au théâtre de l'absurde est importante, et notamment évidemment à Beckett. Donc, au fond, ce qui est intéressant chez Garcia, c'est en quoi il nous permet à tout moment de nous embêter, nous fâcher, de fermer les yeux. Bref, il fait un peu ce que Godard fait au cinéma dans ses meilleures époques. C'est-à-dire, on n'est pas forcément toujours d'accord. Le fait d'être toujours d'accord n'est pas la question essentielle. Néanmoins, le film se tend. Le contact se maintient, tout se rompt. Alors, pourquoi je me permets de dire ces bêtises inaugurales? C'est parce que j'ai eu l'immense plaisir, en 95-96, de découvrir l'œuvre de Garcia grâce à Oscar Gomez Mata, à qui je rends hommage parce que c'est lui qui m'a fait découvrir non seulement Garcia, mais aussi Antoine Richard, et qui m'a dit là, c'est un ami. Parce qu'effectivement, dans les années 90, 11, 12, 13, à Madrid, il y a un monsieur très important qui s'appelle Carlos Margueri, qui est l'éclairagiste et le scénographe à travers les lumières de Garcia, qui a dirigé un théâtre, et donc, là, Oscar Gomez Mata a fait ses premiers spectacles. Rodrigo Garcia, qui avait fondé la Carnicerie en 1989, était aussi dans ses phases de premier spectacle. Et ils se sont rencontrés là. Et ça a été un haut lieu, mais certains le savent, et je me permets de le souligner, ça a été un haut lieu de la scène alternative chez nos amis espagnols. Et donc, en fait, à Genève, la première fois qu'on a monté une pièce de Garcia, c'est Oscar Gomez Mata qui a monté Boucher espagnol. Boucher espagnol est un montage entre les Docks de Cuisine et la pièce Boucher espagnol. Et puis après, voulait monter une pièce de Gregor du Motton, une chute, très belle pièce, et Motton a refusé les droits parce que Garcia, donc Oscar, avait une vision très précise, notamment il réduisait et montait autrement les personnages. Passons, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a dit, il y a le droit, le livre de Rodrigo Garcia. Alors il a fait un livre, et ça c'est une des caractéristiques de l'auteur Garcia, il a fait un livre, Oscar, qui s'appelait Tombola Livre, et il a écrit, coupé Oscar, repris, sélectionné tout ce matériau que Garcia lui-même a mis en scène en français à Valence il y a 2 ans, je crois. Valence, France. Donc, ce qui est important de voir, c'est que à Genève, nous, en Suisse, on a d'abord découvert Garcia à travers le filtre d'Oscar Gomez Mata, dans une veine très différente du travail de Mel Garcia, une veine plus dadaïste, burlesque, sérieusement dérisoire, profondément triste, et après est arrivé comme un cadeau en 97, en 98 précisément, la première performance qui s'appelait Patricia Lamas, entre autres, et des fruits, beaucoup de fruits, on ne le savait pas, beaucoup, beaucoup de fruits. Et le théâtre, le petit théâtre en rond avait un joli parquet, une moquette, etc. Et des jouets mécaniques. Et pendant 30 minutes, ces acteurs ont fait une performance très élaborée, qui avait fait pour Genève, évidemment, qui a fait à Valence, Espagne. Après, on est entré dans la perception directe et on a effectivement eu la chance d'accueillir Afterson, d'accueillir un travail que j'ai acheté une belle chérie à proposer ma tombe, d'accueillir le clown Ronald de chez McDonald, et aussi d'accueillir deux expériences tout à fait particulières, l'une faite en collaboration avec la Société nationale d'Annecy, un stage de comédien français, de comédien suisse, avec Rio Garcia, qui s'appelait Les Pots. Et ce spectacle est très intéressant, d'abord parce qu'il y a deux scènes qui sont dans les théâtres, a expérimenté concrètement avec des acteurs, et d'autre part, parce qu'en moins de 10 jours, avec des acteurs qui ne connaissaient pas, il avait su créer un groupe à travers une esthétique, une façon de voir le sujet, le monde mis en jeu, et que tout le monde pensait que ces comédiens travaillaient depuis un an à l'université. Donc, qu'il y a une façon qui n'a rien à voir avec le groupe, qui n'a rien à voir avec le dictateur, je ne sais quelle brutalité postmoderne. Non, il y a une façon de dire de quel point de vue on regarde les choses et comment on travaille ensemble. À partir de là, il est revenu avec le Borges, dans la version espagnole. En France, malheureusement, cette version n'a pas été montrée, je crois. Néanmoins, c'est un nom d'offre tout à fait admirable. Et c'est comme ça un peu, si vous voulez, à travers ces différentes expériences, qu'on a pu travailler avec eux. Alors, juste pour conclure momentanément, je dirais une chose. Il y a un truc qui est capital chez Rodrigo. C'est qu'il fait un boulot qui est un peu la grande utopie, déjà des années. Comme on disait, l'art théâtral, expérimental, populaire. Effectivement, ce qui fait enrager beaucoup de gens, c'est que Rodrigo avance sur des sujets de base quand il dit « Je trouve que l'éducation des enfants aujourd'hui, ça va pas. » Il le dit quelque part. Je trouve qu'il fait un spectacle. Quand il dit « Qu'en est-il de notre rapport à la consommation ?» à la bouffe, à la publicité. C'est le seul qui mène un combat politique, idéologique, qui prend la publicité comme un enjeu politique majeur, puisqu'il ne va pas faire de la politique, il ne peut pas faire du théâtre, des politiciens, des politiques, ce qui n'existe plus. C'est la publicité. Et il va prendre le bord. Donc c'est des sujets au fond que tout le monde peut comprendre. La présence des enfants, la présence des animaux, souvent évoqués, parfois, lorsque de grands acteurs locaux étaient là, présents. Donc, tout ça, c'est plus populaire que ça, tu meurs. En même temps, ils travaillent des formes, ils peuvent apparaître des formes. On a bien vu, on a compris, parce qu'il vient de la culture, finalement, tout ça, c'est peut-être, pourquoi pas. Je pense que c'est un peu plus profond que ça, c'est-à-dire que les influences de Garcia ne peuvent pas se réduire, on va rentrer dans le détail, il y a des spécialistes ici par rapport aux arts plastiques, aux arts contemporains, mais au fond, pour moi, Garcia, il poursuit le boulot du point de vue de la farce, et sur Ronald, le clown chez McDonald, vous verrez peut-être un jour ici, qui est le clown d'Aristophane, c'est clair. Moi, j'ai vu la salle à Genève. Ah oui, ça fait autre chose. Maintenant, il y a une mauvaise nouvelle, les salles ne se vident plus au spectacle de Rio. C'est donc la preuve qu'il est récupéré, totalement corrompu. Donc, artiste à la mode, et plus du tout créateur majeur, parce que quand même, on ne peut même pas accepter un théâtre qui marche. C'est pas possible. Surtout en France, excusez-moi, je non, un théâtre qui marche, qui soit de qualité, ça c'est relativement incompatible. Il ne faut pas vraiment voir loin où l'enjeu est sur Garcia. Donc, le clown chez McDonald, le Ronald, à Genève, c'était du niveau de la tragédie comédie grecque. Ce spectacle, qui est un spectacle phénoménal du point de vue de la place du rire, la catharsis, dans la salle complètement individuellement et collectivement, d'abord mise en mouvement, c'est oui, c'est du grand art. C'est effectivement à jalouser et à faire rendre dingue tous les directeurs de théâtre et les metteurs en scène et les auteurs. Donc, je crois que c'est ça qui est formidable chez Garcia, c'est parce qu'il n'a pas d'influence des cartes rationnelles et compagnie, parce qu'il n'a pas non plus l'esthétique expressionniste en Allemagne, des Allemands, c'est très différent de ce que font les Allemands. Apparemment, peut-être, c'est proche, c'est très différent. Il fait au fond un théâtre populaire, expérimental, où à travers des formes, parfois par moment limite ou par moment canonique, mais utilisé de façon décalée, il fait avancer le public et il avance avec le public parce qu'il n'a pas de prétention à dire au public une chose qu'il devrait faire ou penser, Et je crois que ça, pour mon goût, c'est vraiment très précieux. Donc, salut, merci.
J'essaie de faire un travail dans lequel convergent différentes voix. Et dans lequel la voix de l'auteur n'apparaît pas comme telle clairement. Je cherche à fuir en fait une approche didactique. Par ailleurs, je me considère comme un moraliste malgré moi. Donc je dois jouer toujours contre ça. Donc pour contrer ce côté moraliste, j'essaie de faire en sorte que différentes voix convergent en fait dans mon discours et qu'on ne sache pas vraiment ce qui est en train de se passer. De cette façon, quand il y a quelque chose d'un peu moraliste qui surgit, c'est noyé dans les différentes voix. Et ça passe comme une phrase parmi d'autres. Yo te quería preguntar también algo, bueno, que comentaba Philippe, es la forma que siempre vuelve en muchos de tus textos, ¿no? que se ven en las pantallas, como si estuvieras hablando a alguien. ¿También participa de esa forma de mezclar un poco las cosas o estás realmente hablando al público? Je revenais sur cette question du tu, donc soulevait Philippe, qui apparaît dans plusieurs des spectacles de Rodrigo, notamment dans les textes qu'ils ont projetés. Donc je lui demande simplement si ça fait partie de cette confusion des voix ou si c'est réellement une adresse au spectateur.
Il y a la personne, je suis la première personne qui finge cette biographie.
Donc j'utilise beaucoup la première personne, mais c'est une première personne qui feint d'être autobiographique. Ça a l'air d'être autobiographique, mais la plupart du temps, ce sont des expériences que je n'ai pas vécues ou que j'aimerais vivre.
Juste pour me permettre sur le tu, une remarque. Mon patotone de traductrice, le tu en espagnol a une valeur légèrement différente du tu français et peut s'apparenter à une généralisation. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, ta journée s'organise comme ça, et ça peut signifier. Ça peut identifier une sorte de collectivité aussi. Le tu n'est pas aussi, dans son emploi quotidien, n'est pas aussi identifié à un interlocuteur précis qu'en français.
Sí, y por otro lado, esta forma
contre, c'est vrai que quand j'utilise la Pietà, en fait, je joue sur le décalage entre ce qui est en train de se passer sur scène, qui est plutôt quelque chose de violent, de sale, de tordu, et cette image un peu pseudo-religieuse de la Pietà qui est effectivement une recherche d'humanité.
Quizá yo cojo el tema de la piedad como que me seduce más la iconografía que el significado.
C'est curieux, personnellement je ne suis pas catholique pratiquant, et quand j'utilise l'image de la Pietà, c'est peut-être au fond davantage pour l'iconographie que vraiment pour la signification de l'image.
Pero de todas formas también hay una historia.
Il y a aussi l'histoire, et ça fait un moment que l'homme a cessé d'avoir une relation avec Dieu. Donc l'homme est devenu un individu s'individué et a décidé de mener des expériences, d'expérimenter des choses. Il y a une époque où l'homme avait des traditions, où on savait ce que faisaient nos grands-parents, et maintenant ce n'est même plus le cas. Et maintenant, donc, nous vivons ce que nous vivons, nous n'avons plus d'héritage, nous ne faisons qu'expérimenter des choses. On mène en fait des expériences jusqu'à l'épuisement, enfin qui sont très intenses, mais en fait sur rien, sur le vide. Donc il faut avoir de la pitié pour ces gens, parce que tout le monde, on est tous déguisés en fait, comme dans la vidéo. La vidéo est la de la camiseta. Rodrigo, c'est référence à une vidéo qui est dans Rebellion Man, où la Vierge porte en fait toute une série de personnes qui sont dans des uniformes différents. Voilà.
Contestez ou ne contestez pas?
Est-ce que vous avez besoin de la réponse?
no sabría cómo decir, definirla. O sea, yo no pienso en términos de activismo social más allá del teatro. Mejor un poquito tocar conciencias y punto, después cada cual ya lo que dará.
Y hay una frontera entre artistique et politique que je ne saurais pas définir. Moi, je n'envisage pas l'activisme au-delà du théâtre. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on passe aux interventions.
Qui
s'appelle Les petits anges, chers petits anges. En fait, dans cette pièce, les personnes qui s'expriment sont censées être des enfants.
Sont gardées telles quelles, ne sont pas à traduire jamais. IKEA,
Borges, donc j'achetais une chez Ikea ou une autre pièce qui s'intitule Borges, font référence à l'Argentine, parlent bien l'Argentine. Et souvent, on se demande aussi comment présenter Rodrigo Garcia. Est-ce que c'est un auteur espagnol, est-ce que c'est un auteur argentin, hispano-argentin. Il est assurément les deux. Maintenant, c'est vrai que l'ancrage argentin est intraduisible, au contraire des références espagnoles. Parce que finalement, beaucoup de ces spectacles, plus que parler de l'Espagne ou quoi que ce soit, dénoncent une société de consommation, que ce soit dans Jardinage humain, dans Ikea ou dans l'histoire de Ronald McLean de McDonald's, une société de consommation qui s'alimente des carences, tout ce qui est comment dénommer le tiers-monde. Et ce sont des pièces qui ne cessent de souligner également l'écart, et notamment, si on veut aborder ça d'un point de vue politique, idéologique, historique, l'écart entre le Nord et le Sud. Et je voudrais juste rappeler un petit passage de Jardinage humain, ce passage où quelqu'un dit « je marche dans la rue, je vois quelqu'un faire tomber une pièce, il la ramasse et passe son chemin, ça a l'air normal, ici c'est normal. Mais si tu vas faire un tour à Caracas ou n'importe où en Argentine, au Brésil, en Colombie, tu verras que ce qui est normal, ce n'est pas de la ramasser et de passer son chemin, mais de se faire taper dessus pour se faire voler la pièce. » Donc, c'est là qu'on voit la formulation d'une espèce d'interculturalité, de la remise en question du modèle, ici un modèle comportemental européen ou latino-américain, qui s'accompagne d'une formulation plus scénique, comme par exemple le déballage de nourriture, qui choque aussi beaucoup de monde, hein, puisque ce sont des reproches qui ont été faits, ce déballage de nourriture, quand certains ont de faim, bon, là encore, il s'en est expliqué, il a expliqué. Bon. Je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, c'est vrai que c'est un théâtre qui est clairement aussi destiné à un récepteur européen, voire bourgeois. Un théâtre qui vient d'Argentine, en partie, mais qui n'est pas forcément fait pour l'Argentine. C'est un théâtre, il y a une expression, un mot que j'aime bien dans la dernière pièce qu'il a écrite, qui s'intitule Agamemnon, sont les antipodes. Et j'ai vraiment l'impression d'être en face d'un théâtre des antipodes, qui sont à la fois géographiques et culturels, et qui habitent tout le temps à changer de point de vue. Ils mélangent tout le temps les genres, ils mélangent les points de vue, les titres sont emblématiques de ce mélange de genres, notamment quand on compare les titres et les sous-titres. Le sous-titre d'Agamemnon, c'est « À mon tour du supermarché, j'ai flanqué une réclame à mon fils ». Et des titres qui sont parfois programmatiques, comme « Jardinage humain » ou « J'ai acheté une nouvelle chez Ikea pour creuser ma tombe ». Des titres qui parfois également ne laissent pas du tout préjugés du contenu, comme dans « Borges » ou le texte en finit aussi avec un mythe. Donc c'est un théâtre qui justement dit constamment l'écart dans son mode d'écriture et dans ce qu'il désigne. Une autre particularité de ce théâtre, c'est qu'il ne, tu en as parlé, il évacue la notion de personnage. Il n'y a pas de jeu inscrit dans le texte. Quand vous lisez, si vous achetez un livre de Rodrigo, si vous lisez un livre de Rodrigo, vous ne reconnaissez pas forcément la forme du spectacle. C'est du texte qui est parfois narratif, mais toujours empreint de théâtralité, et une théâtralité que justement il faut aller retrouver dans la traduction. Et traduire Rodrigo Garcia, c'est vraiment aussi plus que jamais traduire pour le théâtre, même si effectivement on est amené à traduire pour différents formats, que ce soit la mise en bouche ou la projection, le surtitrage également. Ce sont des textes qui ont l'air fragmentés, et c'est une fragmentation apparente à laquelle la mise en scène va devoir donner toute sa cohérence. Et une cohérence qui n'est pas basée sur une histoire que l'auteur est en train de raconter, mais pas non plus une cohérence de des relations plus ou moins conflictuelles entre des personnages, mais une cohérence que je qualifierais d'abord de cohérence idéologique. Et là se pose aussi au moment de la traduction la question de l'empathie aussi traducteur, dans la mesure où ce jeu omniprésent que doivent assumer les comédiens qui ne racontent pas leur vie, tout comme l'auteur ne raconte pas sa vie, mais qui doivent assumer ce jeu qui n'est pas attribué à un personnage, à un personnage de fiction. Donc pour jouer du Rodrigo Garcia, il faut assumer ce qu'on dit sans se cacher derrière le masque du personnage. Je dirais pour le traduire également, il faut assumer, il faut assumer ce qu'on écrit, ce qu'on traduit et redonner le sens aussi à, le sens à la signature. Et je ne voudrais pas non plus réduire le théâtre de Rodrigo Garcia à un simple message, cohérence idéologique et à un simple théâtre engagé, même si cette notion me semble extrêmement importante et il n'y a aucune raison d'en rougir. C'est aussi un théâtre qui est régi par une cohérence linguistique. Une des richesses de ce théâtre, c'est la langue qu'il utilise, et c'est aussi une des grandes jubilations de la traduction de ce théâtre. C'est traduire un système complexe basé sur des jeux de mots. Mais là encore, des jeux de mots qui. Le terme jeu n'est pas vain quand j'utilise cette expression. Je vous donnerai un petit exemple d'un homme de cuisine. Quelques cafés que je vous permets de lire. Je gagne ma vie, j'aime bien cette phrase, c'est un dialogue. Hein. Je gagne ma vie, j'aime bien cette phrase, elle est jolie. C'est autre chose que tenir bon dans la vie, c'est pareil. Non, c'est faire sa vie comme on peut. Non, gagner sa vie, c'est autre chose. Tenir bon dans la vie, ça me plaît bien, c'est comme flotter dans la vie. Le contraire de sombrer dans la vie. J'aimerais bien sombrer dans la vie, c'est le contraire de faire attention. Faire attention, c'est gagner sa vie. Si je continue, je vais mal finir. Si tu continues, tu ne feras pas de fuseau. Tu ne seras plus là pour m'en parler. Si je m'arrête, je sombre. J'aimerais bien sombrer dans la vie, jusqu'au bout, jusque-là. J'aimerais bien sombrer dans la vie, c'est le contraire de repêcher pour la vie. Si tu continues, tu vas mal finir. Il faut bien s'arrêter un jour. Seuls ceux qui gagnent leur vie peuvent s'arrêter un jour. Seuls ceux qui gagnent leur vie ont bien gagné des vacances. J'aimerais sombrer dans la vie. Sombrer dans la vie, c'est la coulée douce. Glander, glander, ça me plaît bien. Donc, ce jeu de mots, c'est pas particulièrement emblématique, mais en tout cas, il est révélateur de cette façon de toujours récupérer les expressions du quotidien pour leur redonner du sens. Hein, quand je parlais de jeu de mots et que je disais que ce n'était pas un vain mot, c'est une nouvelle expression, c'est parce que c'est aussi retrouver dans la langue le sens galvaudé par son utilisation quotidienne. Et parler de jeu, c'est aussi parler de cet espace vide dont qu'il s'approprie, l'espace vide qui permet à une porte de bouger. Hein, c'est cet espace vide qui permet le mouvement, sans espace vide, pas de mouvement. C'est cette charnière qui est tout le contraire d'une langue figée, qui permet de redonner du sens aux mots, de retrouver le sens des paroles communes, de dégager la langue du carcan quotidien et en quelque sorte de rappeler aussi ce que parler veut dire. Et c'est là aussi que l'engagement poétique rejoint l'engagement politique. Voilà.
Bagarre de steak haché. Les gens se jettent du steak haché dessus les uns les autres. Quand j'étais à Annecy et quand j'ai vu cette performance-là, j'ai tout de suite pensé, et je pense que de nombreux ceux qui pourraient y penser, à ce que Fluxus pouvait expérimenter inévitablement au début des années 60. On peut penser à cette manière-là que des gens comme Masunas, comme Beuys, ont eu envie de rompre, enfin, cette manière qu'ils ont construite pour rompre les frontières entre, on va dire, l'espace de l'art, l'espace institutionnel, l'espace sacré du théâtre, du musée. Et l'espace de la vie quotidienne. Là, des gens de 70 ans, par exemple, se retrouvaient dans une discothèque, alors que je pense qu'il y a bien longtemps qu'ils n'y étaient pas, donc déjà en soi, ça mène autre part, ça dépasse. Cette histoire de steak haché qui paraît complètement saugrenue, autant de choses comme ça, où le quotidien, le festif, l'artistique sont mélangés, amènent un déplacement du regard, et finalement, rien de doute, un recentrement sur cette impression de déplacement. C'est un petit peu paradoxal. Donc voilà, la première référence, c'est assez inévitable, me semble être Fluxus. Je pense aussi, hier soir, j'ai vu Ikea, à de nombreuses reprises dans cette pièce, le corps humain est envisagé comme une sculpture. Qu'il s'agisse effectivement d'une position christique, de voir en croix, en tenant des sandwichs sur lesquels on déverse de la moutarde, du ketchup. À un moment donné, le corps humain est envisagé de manière absolument sculpturale. Là, inévitablement, je pense à Pierre Manzoni, qui en 61 a décidé, donc c'était un peintre italien, sculpteur, qui avait dû travailler, on va dire, assez classiquement. Puis un jour, il a décidé d'inventer des sculptures humaines, c'est-à-dire qu'il demandait à des gens de venir, et trois quarts du temps, ces gens étaient venus, et il leur a signé un certificat d'authenticité. Et par moments, il y avait une partie seulement du corps, c'est-à-dire qu'il était œuvre d'art, par exemple le haut. Et alors c'était bleu, mais c'était décidé. Cette partie bleue était œuvre d'art. Par contre, la partie verte n'était pas œuvre d'art. Voilà, quand je vois par exemple cette position vestie, cette manière de transformer le corps en objet, je pense à cette pièce. Je peux penser aussi à d'autres références, comme par exemple, très souvent, on l'a dit dans les pièces de Rodrigo, il y a une vraie violence, une vraie frontalité qui amène à une sorte de prise de conscience du spectateur, je pense, de sa responsabilité de spectateur, de voyeur. Là, je parlerai d'une pièce qui s'appelle « Shot », qui a été faite en 1971, de Chris Berman. Là, c'était simple, c'était à Los Angeles, une galerie pas très loin d'Hollywood. Chris Berman se promène dans une galerie, il demande à un ami de lui tirer dessus, avec un vrai revolver. Et il a le bras transpercé d'une balle. Et à la fin de cette performance, il s'adresse au public, et les met en face de leur responsabilité. Ce que le public était là, regardez, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas décidé d'intervenir. Ça aurait pu être, il aurait pu avoir un accident, etc. Ça, c'est une pièce assez emblématique, cette violence, cette manière à un moment donné de renvoyer le spectateur à sa responsabilité. Ça me semble être un des ingrédients extrêmement forts visuellement dans le travail de Rodrigo Garcia. Pour poursuivre mon petit parcours, je pense inévitablement aussi à Mike Ellen. Par exemple, hier soir, avec Claire, vous savez, c'est pour ceux qui l'ont vu, la fin, à un moment, c'est assez cru, le rapport au corps est assez cru, c'est mon officier, puisque, comment dire ça avec des mots simples, un homme et une femme nus tous les deux s'assied sur de la nourriture. On va dire, ils font l'amour avec des spaghettis. Michael Hay a fait en 1990 une pièce qui s'appelle Manipulating Mass-Produced Idealized Objects. Là, il s'agissait d'un homme nu, d'une femme nue, qui est à distance l'un de l'autre et qui s'excitait sexuellement sur des peluches. Peluches, donc des jouets pour enfants. Évidemment, made in Taïwan, des peluches très facilement reconnaissables. Voilà, je pense à ce travail, lorsque je vois ce genre de choses. Et enfin, pour finir, là, il me semble qu'il y a vraiment une référence, en tout cas pour moi, c'est incontournable, c'est le travail, enfin, l'analogie qu'il peut y avoir entre le travail de Rodrigo et le travail de Paul McCarthy. Notamment dans ce rapport évidemment au corps, à la sexualité et à la nourriture. Paul McCarthy est un artiste qui a commencé à travailler dans les années 60, qui travaille toujours aujourd'hui, Il faisait des performances en live depuis une quinzaine d'années. Il a décidé de travailler avec la vidéo. Et c'est un artiste qui propose une critique extrêmement acerbe de la société spectaculaire, des icônes telles Popeye, par exemple, qui sont sur le marché des images par Disney, beaucoup de moutarde, énormément de ketchup, beaucoup de jouets, beaucoup de gestes transgressifs. Ce que je trouve, ce qui me semble être intéressant de repérer dans l'analogie, c'est la fonction de la nourriture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la nourriture, c'est ce qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Au début du film, par exemple, il y a tout un moment où les trois personnages mangent des lasagnes, les recrachent, les jettent par terre, les re-ramassent, les remâchent, puis se les écrasent sur le visage les uns des autres. Autrement dit, cet espace-là de nourriture, enfin, la nourriture comme espace qui va de l'extérieur à l'intérieur, c'est aussi ce qui va de la production sociale, à l'intimité, c'est ce mouvement de va-et-vient. Et je pense qu'il y a un point, un nœud entre McCarthy et Garcia, parce que c'est sans doute une des choses les plus choquantes, peut-être on pourrait dire dionysiaque, que le sexe et la nourriture ainsi frontalement abordés, pour amener encore une fois le spectateur à sortir de ses bons consentements. Donc je vais arrêter là le petit cheminement des références. Il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pratiquement pas parlé des interventions de rue que Rodrigo Garcia a fait. Je n'ai pas parlé des films de Rodrigo Garcia, parce que je voulais juste, comme ça, à travers quelques références, vous faire ressentir cette fonction fondamentalement visuelle, je trouve, et extrêmement élaborée dans le travail de Rodrigo Garcia. Pour ma part, ce n'est pas un travail qui appartient à la théâtralité, c'est un travail qui utilisant tous les médias, aussi bien l'image en mouvement que l'installation, que la danse d'ailleurs, s'apparente plus effectivement à ce qu'on appelle la performance. Performance, c'est un mot faute de mieux, parce que c'est un grand fourre-tout. J'ai noté une citation de la grande théoricienne de la performance qui s'appelle Rosalie Goldberg, qui est l'une des premières dans les années 60 à avoir sorti ce mot et essayer de comprendre un petit peu, même à travers les avant-gardes dans les années 20, ce que cela pouvait impliquer. Et dans un livre qui s'appelle Performance et l'art en action, qu'elle a publié en 99, où là elle prend vraiment en considération les formes les plus contemporaines de la performance, elle définit donc l'art de la performance comme ça. Donc elle écrit « L'art de la performance ne se fonde jamais exclusivement sur un thème, problème ou mode d'expression unique, mais se définit davantage dans chaque cas particulier par sa réaction provocatrice. Il ne vise que rarement à séduire son public, mais cherchera plus vraisemblablement à démêler et analyser de manière critique les techniques de séduction, tout en déconcertant ses spectateurs, plutôt que de proposer à ces derniers une mise en scène ambiguë du désir. » Je crois que, lorsque j'insiste en disant, que le travail de Régulartia n'est pas tout à fait entier dans le théâtre, ou alors il faut vraiment ouvrir les frontières du théâtre, je crois qu'il y a vraiment selon moi, ça appartient plus à la performance, il y a vraiment cette impression, cet élément-là qui me semble extrêmement important, c'est chercher vraisemblablement à démêler, analyser de manière critique les techniques de séduction. Dans la position critique que Rodrigo affiche et construit, il y a vraiment cette manière-là, comment on peut faire acte, comment on peut faire geste, comment on peut encore aujourd'hui, dans le régime globalisant des images, dans le flux constant des images publicitaires, télévisuelles, entre autres, comment on peut encore déplacer le questionnement, comment on peut encore amener le spectateur à une prise de conscience des dispositifs eux-mêmes, c'est-à-dire, grosso modo, rentrer dans la grammaire des images, images entendues, régime visuel, régime de sens, etc. Là, je continuerai un petit peu en déclinant sur la performance, en venant juste à l'origine du mot et en donnant une petite définition de Robert. Ce que signifie performatif. Donc, le petit Robert nous dit, c'est un énoncé qui constitue simultanément l'acte auquel il se réfère. Et je crois que c'est bien ça qui est extrêmement riche dans le travail de Rodrigo, c'est que c'est un tout qui, à chaque fois, n'oublie jamais les conditions de son énonciation. Et c'est probablement, tout à l'heure il disait, une multitude de voix de manière à ce que mes penchants moralistes ne soient pas trop affirmés. Cette multitude de voix, je crois, aussi contribue à la lucidité du territoire qu'il construit réellement. Et ce qui permet aussi de faire je crois que le travail de Rodrigo permet réellement de produire un électrochoc dans lequel on peut, il y a un certain nombre de questions qui sont tenues, et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il n'y a aucune réponse qui est donnée. Cette série de questions, ce serait peut-être quelque chose comme qu'est-ce qui fait image, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait quotidien, qu'est-ce qui fait texte, qu'est-ce qui fait art, qu'est-ce qui fait communauté, qu'est-ce qui fait couple, qu'est-ce qui fait enfance. On pourrait continuer comme ça, mais c'est le qu'est-ce qui fait, encore une fois, d'ailleurs, je disais, comment on peut faire acte aujourd'hui, et ça me semble être une question qui est vraiment tenue dans le travail de Rodrigo, et je crois que c'est cette question-là majeure, on le voit avec toutes ces questions. Donc pour conclure, parce que lorsque j'ai réfléchi pour cette intervention, j'ai spontanément pensé à un philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben, qu'on cite en ce moment souvent, mais je crois que sa pensée est extrêmement riche et intéressante, et plus particulièrement au très beau concept de geste qu'il a donné. Et je crois que le travail de Rodrigo implique vraiment cette définition du geste, donc je vous la donne. Ce qui caractérise le geste, c'est qu'il ne soit plus question en lui ni de produire, ni d'agir, mais d'assumer et de supporter. Un peu plus loin, à proprement parler, le geste n'a rien à dire, parce que ce qu'il montre, c'est l'être dans le langage de l'homme. Mais comme l'être dans le langage n'est pas quelque chose qui puisse être énoncé en proposition, le geste est par essence toujours geste de ne pas s'y retrouver dans la langue. Toujours gagné dans la pleine acception du terme, qui indique au sens propre ce dont on obstruit la bouche pour empêcher la parole, puis ce que l'on a, ce qu'improvise l'acteur pour pallier un trou de mémoire ou l'impossibilité de parler. Donc ça, c'est une citation que j'ai extraite d'un texte qui s'appelle Moyen sans fin sur la politique et qui a été publié en 1995, la version française. Donc voilà, pour conclure, je dirais que c'est vraiment en ce sens que le travail de Rodrigo Garcia m'apparaît extrêmement important et rejoint en ce sens un des points les plus riches de la création contemporaine. C'est précisément qu'il incarne cette impossibilité, cette difficulté que l'on a de se retrouver dans le langage entendu, non pas comme parler uniquement, mais comme ensemble, complexe de signes qui produit du sens de la vie quotidienne et de la nature. Et c'est aussi bien mon sens que ce travail fondamentalement politique. Voilà.
Bon, et bien, merci. Je crois qu'il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions à Rodrigo ou à l'un des intervenants? Et madame, ce serait bien qu'on vous passe le micro.
Bonjour, c'est une question qui va être peut-être un petit peu provocatrice. Je voudrais demander à Rodrigo Garcia si su intención ahora va a ser seguir a desarrollar la obra que se refiere que ha empezado o hablar de ella. Porque me parece que si va a poder ocupar tanto tiempo hablando de su obra, de lo que ha hecho hasta ahora, o quizás más. J'ai un petit peu le sentiment que les développements qui peuvent découler du travail qu'a réalisé Rodrigo Garcia jusqu'à présent peuvent prendre des proportions telles qu'en fait, ce qu'il a touché, je reprends un titre à lui dans les masses données, et qu'il a su le faire, apparemment, en tenant des réactions, j'ai un petit peu le sentiment que c'est immense et disproportionné par rapport à un seul homme et qu'il ne peut pas, soit il faut qu'il homme, soit il continue à créer. Mais dans ce cas-là, comment vont se gérer toutes ces réactions? Parce que ça part dans tous les sens, parce que chacun a son interprétation. Il peut se multiplier par rapport à la vie, il y a cette salle, il y a encore toutes les personnes qui ont vu son œuvre. C'est que j'ai un petit peu le sentiment qu'on serait ici en train d'interroger Shakespeare ou Molière, on serait dans le même écueil, un peu dans une démarche qui il a touché mon endroit, effectivement.
Pues no, lo que decía es que había un aspecto un poco delirante o enorme en tu obra que podía ir en muchas direcciones diferentes, ¿no? Era un poco la pregunta de la coherencia.
Si je peux me permettre par rapport à l'intervention de madame, quand on a un artiste créé, une fois que ce soit en poésie, en cinéma, quelle que soit l'œuvre, une fois qu'il est créé, elle ne lui appartient plus, et après on va l'interpréter, dire ce qu'on veut, et prendre ce qu'il n'y a pas de. Oui, c'est d'accord. J'ai une question très, très courte.
Excusez-moi, à qui s'adresse votre question? À Rodrigo.
À Rodrigo. Je voulais savoir, dans Jardinería Humana, ¿dónde se encuentra la música? Es una música electrónica y un amigo me decía, preguntaré cuál es su música y la referencia se adhiere aquí.
Je veux savoir d'où vient la musique électronique de Jardinería Humana.
No tiene mucho misterio, la hicimos la compusimos, la hicimos componer con unos DJs de ahí de Rennes.
Donc on l'a fait composer par des DJs de Rennes.
Fui a un sitio en Rennes, bueno, hay una gente que hace una movida que está muy bien en Rennes, que se llama Transmusical, y ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama el sitio, pero hay un sitio donde produce un mogollón de música contemporánea y estuvimos trabajando ahí con esa gente.
Donc il y a un lieu en fait, donc le Transmusical à Rennes, si se souvient plus le nom, mais il a été dans ce lieu, il a travaillé avec des gens qui s'y collaient.
Tuve entrevista con 4 o 5 creadores, no sé si sabes, con compañía que hace música, y bueno, me quedé con unos, y eso fue la gente que hizo la música.
Et il a rencontré 4 ou 5 personnes qui travaillaient dans la musique électronique, puis on a choisi un, et c'est comme ça que le travail s'est fait. Alors, festival, je vous écoute.
Sí, bueno, es como, es que no recuerdo el nombre, hay un sitio en Real que está muy bien, ¿cómo se llama? El Transmusical es el festival, pero después hay otro sitio, Moral, que está muy bien, que produce un mogollón de música contemporánea, pero no me acuerdo el nombre.
Donc c'est un lieu qui va aller Transmusical exactement, qui sont bien pas les qui. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Monsieur Labasse, le micro.
J'avais une question posée pour Lucie Jeanne-Valère sur la vidéo que c'était un théâtre qui était inspiré de l'Argentine, qui n'était pas forcément fait pour l'Argentine. On va savoir pourquoi. Et ensuite à Rodrigo, savoir si il avait déjà tourné cette pièce en Argentine et la réception avec le public.
En fait, en disant ça, je reprenais une discussion qui avait déjà eu lieu avec Rodrigo concernant les. Il répondrait beaucoup mieux que moi. Je me suis pointée de ce que je voulais dire, c'était que des gens lui avaient reproché d'avoir beaucoup gaspillé de la nourriture sur scène pour parler de cette mauvaise distribution de la nourriture dans le monde, je reprends ces mots-là. Et donc lui avait expliqué que ce type de spectacle était fait pour le voir, pas du tout fait pour être joué dans des pays où on meurt de faim, effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai parlé des cas, c'est-à-dire que c'est un théâtre qui à la fois dit. Montre à quel point le changement pour nous permet de capter la réalité de façon différente. Donc, en cela, c'est ça, je parlais de théâtre des antipodes aussi pour son théâtre. C'est vraiment c'est aussi un théâtre qui se nourrit d'une réalité qui n'est peut-être pas celle du spectateur européen et du spectateur qui peut payer sa place de théâtre, parce que c'est un spectacle qui se joue en salle et dans des salles où on paye. Il y a aussi tous les spectacles de rue. Et en même temps, quand je parlais du destinataire, et en même temps, c'est un théâtre qui se nourrit d'une réalité de ceux qui ne peuvent pas se payer ce théâtre-là. Mais je pense que peut-être Rodrigo en parlerait mieux, puisque là, ce que je fais, c'est reprendre des déclarations, justement. Philippe Magazin parlait des déclarations qu'il fait, qui sont très riches aussi, qui permettent aussi d'appréhender son théâtre. Et là je reprends les mots de Rodrigo, non pas de ses pièces, mais des interviews, que cuando me preguntaban que es un otro que, o sea, cuál es la realidad, etcétera, y que tú decías que estás soltando la vida,
cuenta de el conflicto este de las desigualdades, ¿no? que yo conozco porque viví en Argentina y vivo en Europa.
Donc ce que je fais s'alimente du conflit en fait lié aux inégalités, étant donné que j'ai vécu en Argentine et en Europe.
Mais eso sí, como el centro de esta obra que he hecho hasta ahora, ¿sabes? Cuando digo esta obra, es que yo he hecho como 4 o 5 obras que para mí son como una forman como una obra, pero es un ciclo que yo creo que se acabó.
C'est effectivement donc le centre de mon œuvre. Enfin, quand je parle de mon œuvre, je parle de 4 ou 5 œuvres qui pour moi constituent un ensemble qui, je crois, est terminé. Ensuite, quand on a tourné au Brésil, certaines personnes m'ont dit « Non, mais t'inquiète pas, ici aussi, il y a des gens qui sont aussi assez barrés et dans le même type de vie. »
Pero en principio, la idea es trabajar hacer un teatro simplemente que resulte molesto durante una hora y media, 2 horas en teatros europeos.
L'idée de base, c'est quand même de faire un travail qui soit dérangeant pendant 1 heure et demie pour les théâtres européens.
Pero de ahí a que se consiga ya es otro cantar. Que de ahí a que lo consigamos ya es otro cantar.
Par contre, enfin, ça ne veut pas dire qu'on y arrive pour autant.
Porque al final nunca sabes para quién estás trabajando.
En fin de compte, on ne sait jamais exactement pourquoi on est en train de travailler.
Contra quién estás trabajando.
Ou contre qui, plus
exactement. Sabes, es difícil porque cuando la sala se llena de gente que piensa como tú, pues se produce como un acto así muy extraño. Parece que no tiene demasiado sentido compartir cosas con gente que piensa como tú.
En fait, c'est étrange parce que quand la salle se remplit de gens qui pensent comme toi, ben c'est un peu un drôle de processus. Parfois, ça n'a pas tellement de sens de m'adresser à des gens qui pensent comme nous.
Nos reímos de las mismas cosas, reflexionamos sobre las mismas cosas y al final, ninguno hacemos nada de nada.
On rit des mêmes choses, on pense aux mêmes choses et puis en fin de compte on fait rien de rien.
Y cuando estás contento porque piensas que en la sala hay gente que no piensa como tú y esa gente te vas a tocar los huevos o algo, te das cuenta que esa gente pasa completamente también de tu discurso.
Et quand tu te rends compte, tu crois qu'il y a des gens dans la salle qui ne pensent pas comme toi, et ben, tu réalises que finalement ils n'ont pas grand chose à faire de ton discours.
Entonces, como artista, no tienes ni idea de lo que tienes que hacer ni para quién trabajas.
Donc, en tant qu'artiste, tu n'as pas d'idée préconçue, tu ne sais pas pour qui tu travailles.
Y lo curioso es que seguimos produciendo.
Et ce qui est curieux, c'est qu'on continue quand même à produire.
Y es bonito, es extraño, no se sabe por qué seguimos trabajando.
Et c'est à la fois beau et étrange, on ne sait pas pourquoi on continue à travailler.
C'est une question à Rodrigo, puisqu'on vient juste de parler d'Argentine. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, moi j'ai jamais mis les pieds en Argentine, on m'en a parlé des mouvements, parce que tu es parti d'Argentine en 86, donc tu as vécu sous la dictature. Et j'ai entendu parler d'un groupe d'activistes qui s'appelle les Hijos. Hein, et j'ai vu des traces du travail que tu faisais pour essayer de rendre visible à la conscience, pour rendre une conscience politique, sociale, de cité, je ne sais pas. Et donc ils utilisent en fait tout un langage.
Nécessité,
c'est très, très, très. Si, más o menos. Yo prefiero no hablar ce thème. Son thème est vraiment de...
Non, je...
Son thème est vraiment de la... Je préfère ne pas parler de ce thème. Je, la sobra, je l'intente de coller de la forme plus disfrazada possible. Je préfère ne pas parler de ça.
Non, je préfère ne pas parler de ces questions d'Argentine.
Hablando de hijos de desaparecidos y de las movidas, yo prefiero tratarla políticamente como puedo, más o menos como puedo, dentro de mis piezas, pero prefiero no debatir sobre eso. Yo.
Je préférerais ne pas parler directement des enfants disparus. J'essaie d'en parler dans mes spectacles de façon plus poétique, mais je ne préfère pas les aborder comme ça directement.
Mais ma question, en fait, elle est relevée aussi d'un travail formel, c'est-à-dire que justement, après la chute de la dictature, pas mal de gens ont essayé de trouver des formes d'impact pour des formes visuelles très directes, très frontales, pour que cette mémoire-là du régime dictatorial soit présente dans la vie et que les gens qui ont commis des fautes, des bourreaux, etc., soient vraiment signalés. Et en fait, c'était plus formel ma question.
La pregunta era más bien acerca de unos grupos de artistas que trabajan sobre la memoria, ¿no?, en Argentina y que intentan encontrar formas en las que se puede señalar pues quién fueron los verdugos. Pensaba en un grupo que se llama Los Hijos.
¿Un
grupo de artistas?
No.
No, hijos no son artistas, eso es un movimiento, madres, padres, relacionarios, y después vienen hijos, y son la peña esta que está como siguiendo a todos los asesinos, los torturadores, no hablar de eso.
C'est un groupe en fait d'activistes qui suit en fait les anciens bourreaux, justement ils vous répètent qu'ils préfèrent ne pas en parler.
Oui, c'est par rapport à ce que disait madame sur l'inquiétude qu'elle avait, au demeurant légitime, sur la difficulté peut-être pour Rio Garcia de gérer, le terme bien impropre, l'impact de son travail. Hein? Et la dimension qu'il révèle. Et ça nous ramène au titre, au fond quand même. C'est pas si mauvais ce titre. Non, je crois que c'est quand même plus complexe que ça. D'abord parce qu'en Espagne, pour les raisons que vous connaissez peut-être mieux que quiconque, en espagnol, le théâtre de Rodrigo García n'est pas du tout un théâtre qui a l'impact public, médiatique, qu'il a par exemple en France, en Suisse ou en Allemagne. Pour des raisons historiques liées aussi au théâtre espagnol, je ne vais pas revenir là-dessus, lui, il fait partie de la scène dite alternative. Et en Espagne, la scène dite alternative, c'est souvent une scène alternative. Par rapport à ce que les Français peuvent connaître. Donc, déjà là, le combat est très différent. Je ne parle pas des qualités propres d'endurance et de mise à distance qui caractérisent Garcia, parce que ça, c'est vrai que depuis maintenant 10 ans, bientôt 10 ans que je change de reconnaître, et pour moi, il n'a pas bougé la cape, ce qui devrait être horrible, mais il bouge là où il faut bouger, dans son œuvre, et dans sa position par rapport à son œuvre, il reste assez. Il est là ce soir. En France, c'est très localisé et c'est surtout très médiatique, au sens des médias, et c'est dans quelques endroits, il n'y a pas beaucoup d'endroits au fond quand même, parce que je ne peux quand même pas charrier, c'est Paris, enfin, il y a quelques théâtres à Paris, 2, 3, Rennes, Toulouse, Valence, enfin, je veux dire, c'est pas. Les Bernardines, non mais d'accord, mais c'est bon. Et à l'intérieur de la salle, pour dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il attire des gens qui, après, sont très différents, ont des positions très différentes, et c'est assez rare qu'il y ait en même temps une telle présence, je dirais, exprès numérique, enfin, parce qu'il n'y a pas de raison que le théâtre de Garcia, et je crois que c'est ça qui est en train de se passer maintenant, il n'est pas la force d'impact, effectivement, d'un Shakespeare, ou même s'il y a une notion d'artiste majeur, fait un peu froid dans le dos, mais peu importe, son théâtre a un impact social, esthétique, qui n'est pas courant. Et en même temps, à l'intérieur de la salle, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Et dans la profession, comme on dit, n'est-ce pas, dans le milieu de la mafia, il n'est pas vraiment bien reconnu, il n'est pas apprécié, parce que justement, on trouve qu'il compte tout à l'art contemporain, qu'il fait des choses vulgaires, grossières, qu'il n'y a pas de texte, que c'est bon, bref, bon, pourquoi traduire ça et tout ça. Et en plus, je pense que c'est écrit et projeté en français, un peu d'horreur. Donc, je pense que ça, c'est quand même relativement en mouvement. Et donc, c'est pas si fixé que ça, cette reconnaissance. Et voilà, mais en même temps, c'est un vrai enjeu, parce que notamment les Français ont cette capacité, surtout à Paris, mais enfin, c'est plus ou moins pareil, France, Paris, tout ça, c'est la capacité de... Non, mais c'est le côté Louis XIV de la France. La Révolution française, c'est encore une histoire à venir. Ouais, ah, quand même, les festivals, ils n'y croient pas, vous savez. C'est ce côté, il faut attraper ce pied à la mode. Alors lui, il est un peu emmerdant, parce qu'il est à la mode, mais en même temps, c'est lui qui l'a fait, la mode. Alors, c'est un peu emmerdant, c'est pas... C'est lui qui l'a produit, il la provoque, la mode. Il a une sorte de droit d'auteur sur la mode. Normalement, c'est l'inverse. Et donc, à Paris, on va bouffer on va amener à Paris ce qui existe dans le reste du monde, et en Europe, et puis on fixe ce qui est bon, de bon goût. Lui, le problème, c'est pas très de bon goût, lui-même. Donc je crois qu'il a, il est assez, à mon avis, une certaine endurance. Voilà.
Oui, ma question s'adresse à Rodrigo. Et je voulais savoir si vous pensez réellement que le fait de choquer était le meilleur moyen de transmettre un message. Et si oui, pourquoi?
Pero no, como que chocar casi es como, no es premeditado, es algo que viene, es una reacción que viene a posteriori.
Choquer n'est pas quelque chose de prémédité, c'est une réaction qui vient a posteriori.
Yo hago cosas que para mí son lo más normal del mundo.
Les choses que je fais sont les plus normales au monde pour moi.
Es lo que hay que hacer, o sea, no piensas forzar cosas para... Para que sea chocante.
C'est ce qu'il est nécessaire de faire. On ne pense pas à forcer les choses pour qu'elles deviennent choquantes.
Simplemente, bueno, estás trabajando y estás buscando pues, una calidad poética, una imagen.
Simplement, tu travailles et tu es à la recherche d'une qualité poétique, d'une image.
Después vienen las interpretaciones. Después llegan las interpretaciones.
Ensuite arrivent les interprétations.
Para alguien será chocante o tremendo y para otros será una tontería o infantil.
Pour quelqu'un, ce sera choquant, pour un autre, ce sera quelque chose d'imbécile ou de choquant.
Ça tendra que ver con la historia individual de cada uno y cómo cada cual vive.
Ça renvoie l'histoire individuelle de chacun et comment chaque individu vit les choses.
Pero al principio uno tampoco tiene la. No premedita. Donc on veut impactar nada.
En principe, ce n'est pas prémédité de. De choquer d'avoir un impact.
Después resulta que el teatro también tiene sus reglas y algo hay que hacer.
Mais le théâtre a également ses règles et il faut donc faire quelque chose.
Eso más en cuanto al contenido, pienso, bueno, no sé.
Emmerder les gens, c'est choquant. C'est plus au niveau du contenu.
Y quería decirte dos cosas.
choses. Tout d'abord, cette ironie dont tu parlais par rapport au public et l'impossibilité de s'identifier à un public. C'est une des choses les plus provocantes, je crois, que j'ai vu ces dernières années sur scène.
Je vais faire une petite précision. La personne qui est en train de parler est Anton Reicha. Estoy gracias de te presentar porque mi persona es aquí. Sí, pero como estás hablando del trabajo de los años 90, donc il parle du travail que tous ces artistes faisaient dans les années 90. Et qui pensaient qu'ils allaient dévorer le monde.
Penser qu'on va voter extrême droite
nationale nationaliste de droite xénophobe. Donc pensez qu'on va voter Christophe Blocher et ne pas se réveiller ce dimanche-là. Pensez qu'on va être homosexuel ou au moins bisexuel et passer sa vie à dormir chaque autre bite. D'emblée, dans tout ce que vous voulez, on va pas faire de texte, vous avez bien compris. Donc, il met en jeu chaque fois des petits microcosmes de pensée, de paradoxes, de... parce qu'il joue, et je crois que le scandale de Garcia, il joue, il met en jeu le monde, comme les plus grands le font, moi madame. Mais non, je prends un autre exemple, Mathias Langhoff, Raymond Besson, mettent en jeu le monde à travers le théâtre, avec évidemment des éléments et une complexité totalement différents, en tout cas pour Besson, Langhoff est bien plus proche de lui. Bref, mais dans les années 20, cette esthétique qui se nourrissait des arts plastiques, de la photographie, du cinéma naissant, etc., ça se faisait. Donc lui, il s'inscrit dans cette tradition. Bon. Et au fond, ce qu'il trouve, c'est qu'il choque, mais pas pour choquer. Et au fond, la question pour choquer, c'est peut-être pour provoquer à penser, provoquer à réagir, au fond, quelque part. Mais parce qu'au fond, d'où le terme de provocation, si vous prenez le terme de provocation, je ne suis pas un écologiste, mais enfin, je vois vocation, je vois action, je vois preuve, je vois toute une polysémie. Donc, il nous remet à un endroit où le théâtre, c'est vrai, avait tendance un petit peu à ronronner, qui était, au fond, de ne plus faire réagir. Je crois que c'est aussi bête que ça. Et ces traditions, elles vont puiser chez les artistes plasticiens, mais chez Swift. Je veux dire, un des, je ne savais pas, mais un des, la performance dont vous parlez, madame, que j'ai vue à Annecy, sur l'histoire, de, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que la viande, c'est chez, on va hacher, c'était marqué viande de bébé tout frais. Et c'est la proposition de Swift, très sérieuse, qu'on a mis dans un programme d'ailleurs pour Rodrigo, où il explique comment c'est plus possible en Angleterre, il y a trop de pauvres, et il faut répartir entre l'esclavagisme et les abattoirs, les bébés. Et Swift, très sérieusement, propose ça. Et je terminerai juste là-dessus, je dis propose, de plus en plus Rodrigo dit una propuesta, hein, et une proposition. Et c'est le verso aussi, la notion d'essai, de proposition qu'il y a chez Brecht, c'est une proposition. Donc une proposition, elle se prend pas, elle se corrige, mais au fond, l'intérêt du théâtre de Garcia, c'est qu'il remet les choses en mouvement, en échange. Alors, on peut refuser cet échange-là, proposer d'autres valeurs, les questionner, les transformer, les rejeter, enfin bref, tout ce qu'on veut. Mais je crois que c'est ça qui est beau, cette notion d'essai, de proposition.
D'autres réactions. Je crois qu'on va arrêter là alors. Parce que le. Alors, pardon, très bref, ouais.
Ça dit les beaux mots. Même si c'est pas le théâtre qui nous apprend les beaux mots, sinon la vie qui fait que dans le théâtre après, M. Garcia fasse vivre les beaux mots, j'ai quand même apprécié. Que si cet spectacle n'ira, il réunit toute la région de l'Espagne, malgré mon cœur, puisque je suis espagnole et andalouse d'Almeria, et je m'appelle Garcia. Ça s'est fait à Toulouse, c'est pas par hasard. Puis, ce soir, on a aussi M. Baron, qui va passer à 7 minutes d'ici, à Toulouse. Il demande à l'Espagnol. D'écrire les noms des Hirobudas, pourquoi pas? C'est ça qu'il faut. S'il faut dire Hirobudas, et si côté de la scène, on le dit. On les marque dans sa main. Et tout à l'heure, je vais les voir, je les connais personnellement. Et on les dit pourquoi? On les pose la question. Mais sachez quand même qu'à Toulouse a été le berceau de beaucoup de réfugiés espagnols, de toutes les sortes. De toutes les tendances, des réfugiés espagnols de la dictature, pas de l'Argentine, de l'Espagne. Et c'est à Toulouse, et Salvador Hurtado, la Guardia de Séville, et c'est mon mari qui l'a aidé à venir, mais il n'avait pas de gitans, venez, il y a les Matillas, les Matillas, qui sont aidés pendant la dictature, et venez à Toulouse, parce qu'ils ne pouvaient pas parler en Espagne. Et vous continuez pareil, vous venez à France, vous venez à Toulouse, puisque vous savez ici votre berceau. Vive la France et vive les théâtres!
excusez-moi, c'est qui?
Merci, Gabriel.
Il est réfugié à Toulouse. Mais il le sait, on